Bonjour Anaïque.
Bonjour Sandra.
Anaïque, tu es donc éducatrice à Castres dans une unité éducative de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse. Tiens, tu n'as pas mis ton poncho ce matin ?
Mais si Sandra, regarde. Et toi Sandra, tu travailles à l'UEMO de Montpellier, tu t'improvises animatrice radio aujourd'hui ?
Justement oui, aujourd'hui nous sommes une équipe d'éducateurs qui nous improvisons, journalistes, reporters et animateurs. Mais comment cela est-il possible Anaïque ?
C'est simple Sandra. Nous sommes 14 éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse de Midi-Pyrénées et on s'est tous inscrits à la formation radio organisée par l'association Wakadi et qui est représentée par Jean-Jacques et Loïc.
Ah ouais, là tu parles des deux formateurs qui ont des coupes de cheveux trop mortelles.
Ouais, enfin je dirais plutôt improbable. Au fait Sandra, ça sert à quoi une formation radio ?
Ben, c'est simple. L'objectif premier, c'est d'apprendre à utiliser ce média pour pouvoir le proposer sous forme d'atelier aux jeunes dont nos services s'occupent.
Si je comprends bien, l'intérêt, c'est de permettre à des jeunes en difficulté d'exprimer leur point de vue dans une émission radio de qualité.
Voilà, tout à fait. Tu as tout compris, Anaïque. C'est pour ça que depuis lundi, on s'est tous transformés en équipe de rédaction, logés au gîte de la Bruyère, à Montoulieu. Et nous voilà aujourd'hui. Parachuté dans le studio de Radio Escapade.
D'ailleurs, nous les remercions vivement de leur accueil. Et pour cette émission en direct, nous laissons la parole à Karine, Sébastien et Cédric, des éducateurs de la PJJ avec un sens de l'humour décapant qui vont vous présenter leur métier.
Wesh gros, c'est quoi la PJJ ? C'est la police judiciaire ou quoi ?
Non, tu te trompes jeune homme. La PJJ, c'est la protection judiciaire de la jeunesse.
Ah ouais, mais ça sert à quoi ?
À la PJJ, il y a des éducs qui sont là pour aider les jeunes à se réinsérer.
Mais attention, il n'y a pas que des éducateurs. Il y a aussi des assistantes sociales, des psys, des cuisiniers, des agents administratifs, ayant un seul et même but d'accompagner, de conseiller et d'éduquer les jeunes et d'éduquer les jeunes qui sont confiés par les éducateurs, par les magistrats, excusez-moi.
En gros, délinquant tu seras, la PJJ s'occupera de toi, quoi.
Et tu peux rajouter un milieu ouvert, foyer, centre éducatif fermé, centre éducatif renforcé, établissement pénitentiaire pour mineurs, tu finiras si tu te calmes pas.
C'est quoi tous ces lieux ?
Ce sont tous les services qui accueillent et qui participent au suivi des mineurs, qui ont commis des actes délictueux, mais également qui ont besoin d'être protégés.
En effet, nos suivis vont essentiellement en direction des mineurs délinquants, mais aussi, pour certains jeunes, il reste encore un accompagnement qui vise à les protéger. Par exemple, les jeunes qui subissent des maltraitances familiales.
Ah ouais, donc ça veut dire que si je vole ou j'agresse quelqu'un, j'irai en foyer ou même en prison ?
Il faut que tu saches qu'à partir de 13 ans, la loi te considère comme pénalement responsable.
Ah ouais ? Et mon daron et ma daronne, là-dedans, ils sont sortis du jeu ?
Non, bien au contraire, ta famille est partie prenante dans ton parcours. Et étant donné que tes parents sont tes responsables légaux, ils sont essentiels dans ta prise en charge.
Il est important pour toi que tu aies confiance en l'adulte. Tu sais, je connais un jeune qui a fait un témoignage sur sa prise en charge. Si tu veux, on peut l'écouter.
Ok, vas-y, envoie.
Quand j'étais petit, j'avais confiance en moi, parce que tout était plus facile qu'aujourd'hui. Mais la confiance, tu la perds quand tu vois la vie en face. Gamin, je me foutais de tout. Je me foutais de l'école. Rien ne m'intéressait. J'y allais jamais d'ailleurs à l'école. Ou alors c'était pour foutre le bordel, ou pour me battre. Moi et mes potes de mon quartier, on faisait toujours des conneries ensemble. On espérait y gagner quelque chose. Et au moins, on avait le plaisir de s'amuser, de s'embrouiller avec les profs, de pas travailler, de dormir en classe. J'avais tellement l'habitude de faire des conneries que j'arrêtais pas. Et là, j'ai eu mon premier jugement. Mes parents étaient dégoûtés que leur fils fasse des conneries. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre ce qu'était la vie. Je l'ai trouvé très très dur la vie, avec tout ce qu'il y avait à faire, style l'école, les leçons, les bonnes notes, pour avoir un travail et nourrir sa famille. Maintenant, j'ai compris et je ferai tout pour réussir dans la vie. Mais le problème, c'est que j'ai plus trop confiance en moi. En ce moment, j'arrête pas de réfléchir à qui je vais être plus tard. J'essaye d'y croire, même si c'est dur. Des fois, le matin quand je me lève, je me regarde dans le miroir et je me dis que les gens sont plus intelligents que moi et que je ne pourrai jamais avoir de diplôme. En fait, j'ai de moins en moins confiance en moi. et je ne sais pas comment gagner cette confiance, comment vaincre, pour être comme les autres. Je me dis que j'arriverai pas, que j'aurai pas de travail, que j'aurai pas une vie comme tout le monde. J'ai pas confiance en mon avenir, mais j'essaie de réussir. Comment ? Personnellement, ça, je sais pas. Pas tout seul, ça c'est sûr. Peut-être avec l'aide des éducateurs. Je crois qu'aujourd'hui, j'aimerais bien récupérer la confiance en moi que j'avais quand j'étais gamin. Mais sans les conneries qui étaient avec.
Ah ouais ! Alors si j'ai bien compris, à la PJJ, il y a des adultes en qui les jeunes peuvent avoir confiance. Si on déconne, on passe devant le juge, qui met une sanction. Et vous, vous êtes là pour nous aider sans nous oublier la famille.
Tout à fait. En milieu ouvert, l'équipe éducative observe, accompagne et oriente le jeune dans son environnement.
En hébergement, l'équipe éducative organise la vie quotidienne, observe, accompagne et oriente le jeune hors de son milieu naturel. Foyer, centre éducatif renforcé, famille d'accueil.
Et en insertion, l'équipe éducative accompagne le jeune, placé ou non, dans son parcours d'insertion. Recherche d'emploi, apprentissage, remobilisation, acquisition des savoirs de base.
Merci Karine, Sébastien et Cédric pour cette présentation très originale de la PJJ et de ses différentes modalités d'action. Et merci surtout à Malik pour ce très joli témoignage.
Au fait, Sandra, c'est le moment d'expliquer à nos auditeurs comment se déroule notre formation, qu'est-ce qu'on y fait et comment ?
Oui, mais ça c'est pas moi qui vais vous le raconter, c'est plutôt David et Marie.
Et donc, pour introduire la suite de notre émission, rien de tel pour vous mettre sur la piste qu'un morceau de Tiken Jaffa Coli. Plus rien ne m'étonne, dédicacé à Ronan avec toute sa sincérité.
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne.
Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan.
Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne.
Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors.
Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne.
Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire mandingue. Une partie de l'Empire mandingue se trouva chez les Mossi.
Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, lui rien ne m'étonne, lui rien ne m'étonne, lui rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, lui rien ne m'étonne.
Eh bien, nous vous avions parlé de David et de Marie. Ils sont maintenant avec nous et nous vous laissons la parole.
Ben bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, on va essayer avec David de vous présenter le déroulement d'une semaine de formation.
Bonjour également. Alors, nous allons vous dire quels sont les objectifs que nous visons dans la fabrication d'une émission de radio avec les jeunes.
Ben, il s'agit de leur permettre de s'exprimer.
Non, non, non. Il ne s'agit pas de ça, mais de trouver un digne successeur à Philippe Bouvard.
Bon, ben, pourquoi pas, mais quand même. Mais aussi, il s'agit de leur permettre de parler d'eux, sur eux, de parler pour les autres, sur les autres, et de rencontrer l'autre.
Construire au bout du compte une émission de qualité professionnelle, diffusée sur une radio locale comme ici, voire une radio nationale en visant les Energy Music Awards.
Et puis, il y a les impératifs, dans l'idée que l'apprentissage de ces contraintes leur servira dans d'autres temps de leur vie.
À titre d'illustration, vivre, travailler dans un groupe, respecter des horaires et des délais de production.
N'est-ce pas le lot quotidien de ceux qui veulent remplir un portefeuille de compétences pour accéder enfin aux portes de l'emploi ?
Et puis c'est un alibi pour aller vers les autres, découvrir de nouveaux milieux et des personnalités habituellement inaccessibles.
En soi, le micro donne une certaine hauteur, une certaine légitimité.
Au final, ce micro-baladeur est un formidable accélérateur d'émotions. En allant découvrir les autres, on se découvre un peu mieux soi-même.
Bon, comment se construit la semaine ?
Un thème est choisi, il sera le catalyseur de la semaine.
Nous, pour cette semaine à thème, ben nous avons choisi le partage. Et à partir de ce thème, et pour stimuler les idées, c'est la méthode du brainstorming qui se met en place.
Alors là, c'est une forme de tempête sous un crâne. Ensemble et à tour de rôle, chacun dit ses représentations, ses illustrations, et ça peut donner ça.
Bon, partage, ben égale le partage de la galère.
Ah non, c'est le partage des richesses.
Ben non, 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 c'est plutôt le don de soi.
Il y en a marre, on est toujours obligé de partager.
De diviser le gâteau qui est déjà bien tout petit.
En fait, il ne suffit pas d'énoncer, des idées en vrac, style bric-à-brac.
Non, ça ne suffit pas. Il faut classer, ranger.
Nettoyer, balayer.
Et puis répartir en fonction des aspirations de chacun. Il s'agit de trouver des sous-thèmes pour réussir à avoir une approche plus globale de cette thématique.
Et ensuite, chacun se trouve seul et doit écrire un papier à partir d'une expérience ou d'une réflexion personnelle qui l'a marqué.
Oui, c'est vrai qu'ils se sont trouvés seuls et on s'est trouvés seuls au cours de cette semaine. Bon, ce papier doit être présenté après au formateur. Il doit être corrigé, retravaillé avant d'être lu devant cet impressionnant micro. En fait, il s'agit d'écrire, de lire, mais de faire comme si on n'avait pas écrit en plus.
Ah oui, c'est pour faire plus vrai. Celui qui écoute doit bien avoir la sensation du spontané, mais bien préparer tout ça. Waouh, t'as vu, c'est top.
Alors, à titre d'illustration, voici un petit papier radiophonique écrit par...
Karine.
Ah oui, Karine. Ben alors, on va retrouver ensemble cette pépite.
Je me suis mise au mix il y a environ 10 ans. Au début, je mixais juste à la maison, pour moi ou pour mes amis. Pourquoi ? Sûrement le manque de confiance en moi, mon manque d'assurance et aussi mon caractère réservé. Et puis, j'ai rencontré Laurent, DJ lui aussi. Je suis tombée amoureuse. Laurent voulait me donner confiance. Il me poussait à prendre les platines en public. Après quelques jours d'hésitation, je me décide, je l'accompagne au Léopard Café, un bar parisien branché. Le lieu est blindé de monde. Laurent débute son set, puis mon tour vient. La pression est à son maximum, le stress me prend les tripes. Je me lance et là, waouh, la révélation. Les gens aiment mon son, ça danse, ça hurle. Je n'ai qu'une envie, les envoyer dans une autre galaxie. Depuis, je n'ai de cesse de continuer à jouer dans les bars et les boîtes. Pas pour la notoriété, non. Juste partager mon goût pour la musique électronique. Tout au long de mon set, j'exprime mes émotions, mais sans mots, s'exprimer juste par la musique. La musique électronique est pour moi un exutoire, un lâcher-prise. Avec la musique, je raconte une histoire, la mienne. Avec le public, une sorte d'osmose secret. J'extirpe mon stress, mes angoisses, en leur donnant un plaisir auditif proche de l'orgasme. Il n'y a rien de plus grisant pour moi que de voir les gens bouger sur le dance floor, les voir décoller. C'est un partage musical, un moment d'évasion collectif où les gens s'oublient, et moi aussi.
C'est une véritable performance sonore, Karine.
Bah oui. Bon, qu'est-ce qui nous reste alors maintenant ?
N'oublions pas que l'objectif de cette semaine de formation, c'est la production d'une émission radio de qualité. De qualité.
Du coup, comme on le disait tout à l'heure, le micro sert à rencontrer les gens. Soit sous forme de micro-trottoir. Et à ce titre, une petite perle réalisée par les jeunes sur le thème « Eux, ils ont choisi l'amour ».
Oh ben tiens, c'est bon, là, on va aller voir les gens qui jouent aux boules. Bonjour.
Bonsoir.
Vous allez bien ?
Très bien. Vous venez nous interviewer ?
Si c'est possible, oui. En fait, nous faisons une émission de radio sur le thème de l'amour.
On fait l'amour tous les jours.
Pardon ?
On fait l'amour tous les jours.
Ah bon ?
Oui.
C'est bon alors.
C'est bon.
Toi une fois, moi trois fois.
Je voulais vous demander, qu'est-ce qu'est l'amour pour vous ?
Il y a l'amour dans tous les sens du terme. Hein. Il y a l'amour pour les enfants, il y a l'amour avec son partenaire.
Il y a toutes sortes
d'amour. Mais l'amour, bon, c'est beau quand on est très jeune. Quand on est amoureux, la vie change, tout est beau, tout est merveilleux. Tout est... On se sent pousser des ailes, on est au paradis, quoi. À nos âges, on commence à se calmer, hein, c'est normal.
Et pouvez-vous nous raconter votre première histoire d'amour ?
Oh, là, vous êtes indiscret.
Alors là,
vous poussez un peu.
Moi, ma première histoire d'amour, c'était très platonique. Hein. C'est tellement vieux.
Tu savais quel âge ? Tu savais, tu étais jeune. Hein. Moi, je me rappelle, c'était une jeune. Hein. On a fait l'amour, et on a fait l'amour sur du marc. De raisin, tu sais, de marc, quand on avait nagé. Et quand on est allé danser dans le bar, on sentait le marc de partout. On s'était régalé quand même. Hein.
De manière plus poussée, il y a aussi le reportage.
Quoi ? On devient des reporters sans frontières, à la recherche de la sensation, de l'émotion et de l'information.
Nous, on a envoyé sur le terrain trois donc, compagnies de reporters. On va vous présenter l'équipe numéro 1, Patrice et Sylvain.
Dans le cadre de notre formation sur le thème du partage, nous avons voulu avoir une analyse experte sur la place de l'impôt au sein de notre société, autant lors de la collecte que de sa répartition. C'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre de M. Claude Règle, retraité de l'éducation nationale, ancien professeur de mathématiques. Actuellement, il est le président du groupe Attaque 7 Sud. Alors, monsieur, pourriez-vous avoir la gentillesse de nous expliquer comment les richesses sont-elles partagées en France ?
Cette histoire de partage, c'est diminution des inégalités dans les revenus, alors de salaire, mais alors patrimoine, n'en parlons pas, et puis les impôts progressifs, et enfin l'utilisation de ces impôts au bénéfice de tous. Alors sur les impôts, il y a trois types d'impôts. Il y a ce qu'on appelle la capitation, c'est-à-dire chaque contribuable paye exactement la même chose, qu'on soit riche ou pauvre. Exemple, la redevance télévision. Il y a ensuite l'impôt proportionnel, dont l'exemple type, c'est la TVA. Donc là, plus on consomme, plus on va payer. Et enfin, l'impôt progressif, qui est celui qui devrait apparaître comme le plus juste, puisque plus on est riche, plus on est imposé sur ses revenus. Sauf qu'en fait, tous ces impôts sont inégalitaires. Bon, le premier, c'est clair et net. Le deuxième, l'impôt proportionnel, semble juste, mais en fait, quand on ne gagne pas grand-chose, on va pouvoir juste se payer le nécessaire, c'est-à-dire la nourriture et puis le logement dans le meilleur des cas. Et enfin, l'impôt progressif, qui est, lui, juste dans son principe, est remis en cause, a été remis en cause par tous les gouvernements successifs pour quasiment maintenant devenir particulièrement injuste. Les 1% des plus hauts revenus, c'est eux qui payent le moins d'impôts. Parce qu'ils arrivent avec niche fiscale, dons aux enfants, enfin tout un tas de systèmes qui font qu'en fin de compte, cet impôt est remis en cause. Et quand on voit ce qui se passe, les gens ne veulent plus payer d'impôts dans ces conditions-là. En plus, ça creuse les inégalités. Les inégalités sont un petit peu corrigées par la redistribution. Alors, ici, en France particulièrement, on connaît quand même la sécurité sociale, ça existe encore. La santé, ça existe encore, l'école, ça existe encore, je dis encore parce que c'est attaqué de toutes parts, mais bon, donc tous ces aspects-là, effectivement, sont payés grâce aux impôts des uns et des autres. Donc là, c'est quelque chose de positif qu'il faut non seulement garder, mais étendre. Donc là, c'est vrai qu'il y a encore une certaine cohésion sociale, mais qui est en train de se déliter, puisqu'on va avoir des ultra-riches, des ultra-pauvres, des ignorants, une élite, etc. Donc là c'est, pour moi, le partage, c'est quand même une recherche de cohésion sociale à travers un certain nombre de dispositifs.
Eh bien, merci, Monsieur Règle, de nous avoir fait partager vos idées. Il nous semble qu'une association d'éducation populaire telle que ATTAC est utile dans la réflexion sur une meilleure répartition des richesses. Enfin, le débat reste ouvert.
Merci beaucoup, Sylvain.
Merci Marie, David, Sylvain et Patrice pour tous ces petits papiers. Dis, Sandra, ces fameux papiers, faut se coucher drôlement tard pour les préparer, tu trouves pas ?
Carrément. En plus des papiers, faut tout couper, puis monter, après faut les habiller. Je pensais pas que c'était si long de préparer une émission à radio.
En même temps, préparer une émission de radio, c'est une belle illustration de la notion de partage, tu trouves pas ? D'ailleurs, on va vous offrir un bonus de deux moments purement exceptionnels que l'on a vécu cette semaine.
Et là, pour lancer ce deuxième reportage très coloré, et là je pèse mes mots, nous invitons Maggie et Nicolas qui ont partagé une expérience unique et riche de rencontres. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sandra.
Bonjour Maggie.
Bonjour.
C'est vrai que ça nous est paru naturel de parler du partage en partageant justement avec vous un premier reportage où nous sommes partis à la rencontre d'une communauté vivant sur les contreforts cévenols et dont les membres ont choisi de vivre pour le coup dans un partage total. Un art de vivre le partage autour de valeurs humanistes et pacifistes. Alors sous les rythmes et sous les mélodies de Violette, on a été accueillis par Antoine qui était entièrement vêtu de jaune à l'entrée du village. Nous l'avons suivi tous les six, intrigués quand même dans un premier temps, et puis on a été rapidement embarqués dans un voyage incroyable de 3 heures, dans les arbres, dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Zaya, Gabriel, Élise, Violette, Antoine et Uto, habillés tout en bleu, rouge, violet, jaune, noir, nous ont ensuite parlé simplement de leurs choix et de leurs rêves. Voici une part de rêve, un rêve qu'ils font en réalité et qu'ils ont accepté de partager avec nous. Ils se nomment les guerriers de l'arc-en-ciel.
Les guerriers de l'arc-en-ciel, c'est amérindien. C'est des visions prophétiques amérindiennes qui annonçaient que dans un temps où l'homme aurait trop saccagé la planète, aurait trop pollué la Terre, eh ben, viendrait un moment où certains habitants de la Terre prendraient leurs responsabilités et se mettraient à marcher pour elle, à faire des actions pour elle. Ces gens-là seraient appelés des guerriers parce qu'ils tiendraient des valeurs fortes, quoi, de conscience de soi-même, de marcher vers sa paix intérieure et de répandre de l'harmonie, de la solidarité. Parce que aussi, c'est une action sur on pourrait dire sur le vivre ensemble, donc sur la vie de la cité, ça peut être des actions à l'extérieur. On appelle ça un peu marche ton rêve. On rêve et après on le marche. Le partage, c'est notre quotidien, on se partage nos angoisses, nos peines, nos chagrins, nos bonheurs. Voilà, il y a même un petit jeu où le matin quand on se souvient, on se partage nos rêves. C'est un moment intéressant. Et voilà, c'est pour ça aussi que là vous êtes arrivés, il y a une caméra, on a pris des photos, parce que cet instant-là, on tient à le faire partager. Et par ce partage-là, je pense que c'est ce qui fait que cette aventure marche dans le temps. Il y a du mal, on le sent, on le sait, on le vit aussi, à vivre ensemble. Et on le comprend, parce qu'on nous a conditionnés aussi à être dans une peur. Et bon, on regarde les médias, la société autour de nous, le système des classes, il y a un système de notation, où il y a les premiers et les derniers. Enfin, on est dans une compétition de la vie, en fait. Il faut gagner ma vie, sinon donc on la perd. Il faut gagner de l'argent. Et voilà, à partir du moment où on lâche la compétition, bon, comment on se situe avec les autres? Donc c'est forcément par le partage. Et ça, je pense que de plus en plus, de toute façon, plus on est chassé de ce naturel, parce que ça devrait être le naturel de l'être humain, d'être dans le partage, et ben on y revient au galop, on s'en rend compte par nos actions, les actions de solidarité. Les gens sont de plus en plus touchés et nous font vraiment sentir que c'est important. Il y a un changement de société parce qu'on a trop tourné le dos à des valeurs essentielles au vivre ensemble. Donc c'est un défi, quoi. C'est être guerrier, c'est jamais acquis. Et de l'arc-en-ciel, parce que l'arc-en-ciel, c'est la grande famille de l'humanité, en fait, l'arc-en-ciel.
Voilà, vous venez de l'entendre. Uto, Violette, Élise et les autres nous ont fait partager leurs idées et le mode de vie qu'ils ont choisi. Les guerriers de l'arc-en-ciel sont végétaliens et vivent de façon pacifique, en totale harmonie avec la nature. Chez eux, la notion de partage n'est pas un vain mot. Les repas sont pris en commun. Les tâches quotidiennes sont effectuées en groupe. Toutes les décisions relatives à la communauté se prennent collectivement. Selon leurs propres termes, les guerriers de l'arc-en-ciel ont choisi de marcher leurs rêves, de semer des graines de possibles. À l'issue de cette visite, ils nous ont offert un cadeau musical très fort. Écoutons-les.
Veux de l'amitié, du respect et du partage. Qu'il y en ait pour tous les âges. On veut de l'amitié, du respect et du partage. Qu'il y en ait pour tous les âges. Je veux que de moi, de l'autre, tu n'aies plus peur. Que l'on s'échange vraiment ce que l'on a sur le cœur. Qu'une jeunesse tende la main à l'enfant et à l'ancien, au proche et au lointain, au global et au détail. Et si je veux et toi tu veux, nous serons deux. Et si je veux et toi tu veux, unis dans un projet commun, nous serons un.
On veut de l'amitié, du respect et du partage. Qu'il y en ait pour tous les âges. On veut de l'amitié, du respect et du partage. Qu'il y en ait pour tous les âges.
Je veux axer mes paroles pour que le monde se transforme. Ressentir l'amour de la terre par mes actes et mes prières. Je veux ne rien prendre personnellement. Toujours faire de mon mieux. Ne plus faire de suppositions. Et ressentir la compassion.
Eh bien, quel beau programme. Alors Anaïk, est-ce que toi aussi, tu veux de l'amitié, du respect et du partage?
En pagaille, Sandra. Mais rappelle-toi, si je te dis Jacques, tu penses à qui?
Jacques Brel?
Non.
Jacques Frère Jacques?
Non plus.
Jacques Chirac.
Oh non, rien à voir.
Jacques Higelin, alors.
C'est presque ça, Sandra. Souviens-toi, Jacques Lin. Mais donnons la parole à Patricia, elle en parlera mieux que nous.
Bonjour Patricia.
Bonjour les filles. Nous avons eu le plaisir de rencontrer cette semaine Jacques Lin. Il tient avec sa compagne Gisèle un lieu de vie qui accueille des enfants et des adultes autistes depuis plus de 40 ans. Ce lieu de vie se situe dans une vaste demeure authentique. situé à Monoblé, au cœur de Cévennes, à juste 5 minutes d'ici. Nous avons été reçus dans l'atelier de peinture de Gisèle, au dernier étage, loin de la partie commune, afin de ne pas perturber le quotidien des résidents. Jacqueline nous a raconté sa rencontre. Avec qui ? Fernand de Ligny.
Fernand de Ligny ? Mais c'est qui ?
C'est avant tout un écrivain, mais également un éducateur, comme nous. Fernand de Ligny, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas encore, a œuvré pendant des années pour améliorer la prise en charge des enfants difficiles ou autistes. Et c'est justement un de ces enfants qu'il a présenté un jour à Jacqueline, Jean-Marie, qu'il appelle affectueusement « petit zigoto un peu bizarre ». Cet enfant est alors condamné à la lobotomie par les médecins. Pourtant, il sera recueilli par Jacques et Gisèle et va rester jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire plus de 30 ans avec eux. C'était une fois l'aventure ponctuée de galères, mais surtout de moments d'intense partage. Nous avons voulu aujourd'hui vous faire partager un de ces moments de vie à travers une anecdote racontée par Jacqueline sur Jean-Marie. Écoutons-le ensemble.
Je vis avec Jean-Marie dans un là-haut, à Gourgas, seul. Seul avec lui, tout seul. Alors imaginez, tout seul, dans une grande bâtisse, sans téléphone, sans voiture, à 4 km du village. On a un rythme de vie qui s'est mis en place. Moi, je suis quand même très bricoleur, travailleur. J'installe électricité, je fais étagères, des machins. Jean-Marie est très habile, ses mains sont très prestes et tout. Et d'un seul coup, je me retrouve avec 4 mains. Donc on a notre petite vie tranquille, coutumière, tous les deux, tranquille, dans cette grande maison. On fait la soupe, on fait à manger, on va se balader, un moment on travaille, tout ça. On a une grande pièce, le lit à Jean-Marie dans un coin, le mien dans un autre. Et puis dans la nuit, je ne sais pas quelle heure il était, peut-être 1h du matin, oui peut-être, j'entends que ça s'agite là-bas dans le lit. Et Jean-Marie est là, à genoux, sur son lit, à se balancer, en pleurs. Merde. En pleurs, donc je me lève, je vois ce qu'il a, et je m'approche de lui, bam, il s'envoie des grands coups de tête dans le mur. Alors, je rappelle la situation, tout seul, pas de téléphone, pas de voiture, dans cette maison, avec ce petit gamin qui, jusqu'à ce moment-là, tout se passait bien, puis à ce coup, voilà que ça se détraque. Qu'est-ce que je fais? Je lui propose à boire. Il me repousse ma main. Je lui propose, je sais pas, des noisettes. Je sais qu'il aimait bien les noisettes. J'avais récupéré des noisettes. Bon, pas de noisettes. Bon, Jean-Marie, pas de noisettes. Ça devenait grave. Je le palpe de partout. Je lui dis peut-être qu'à un moment, il va couiner un peu plus au ventre. S'il a mal au ventre, je sais pas où. Rien du tout. Là, j'étais pas très fier. À un moment, je prends la main, puis je fais lever, puis je l'invite, je me démerde comme je peux. Je ne veux pas dire que j'invite à me guider, mais quand vous avez affaire à un autiste mutique, il ne va rien vous dire, il ne va pas vous faire signe. Et au moment où on s'approche de la porte, il file vers la porte. Je dis bon, il y a peut-être quelque chose dehors ou ailleurs qu'il a là. Donc je le rattrape parce que c'est en plein hiver, il est pieds nus, il est en pyjama. Donc à peine je le rattrape, il se refout des grands coups de tête dans les murs parce que je l'empêche d'aller là où il avait l'air de partir. Donc je l'habille tout, je fous par-dessus son pyjama, un manteau, un bonnet, des chaussures. Et hop, voilà qu'il prend le petit chemin derrière la bâtisse. Au-dessus, il y a les deux jumelles, là, on les voit d'ici de la fenêtre. Là, il y a deux grandes jumelles, deux gros rochers. Et la maison où on était est à flanc, mais à trois quarts, faut une grosse demi-heure, trois quarts d'heure pour aller monter en haut de ce piton. Et donc l'après-midi, on y avait été. On a été passé l'après-midi là-bas, on avait amené le goûter, puis on était redescendu, et puis voilà. Bon, tout. Et voilà qu'à 1h du matin, désarroi complet de Jean-Marie, qui m'embarque. De nouveau, de nuit, là-haut vers Saint-Chamond. Moi, derrière, ben, je suis. Avec ma lampe électrique, on ne sait jamais. Lui, il n'a pas besoin d'une lampe électrique, il filait à toute allure devant. Et il monte, et il monte, et il monte, il grimpe. Hein. Et heureusement, je dis bien heureusement, que je le suivais de près, parce que sinon, ça a été très furtif et j'aurais pu ne pas m'en apercevoir du tout. Cet après-midi-là, on avait mangé des oranges. Mais pas des oranges qu'on peut peler, des oranges, on mange la pulpe, parce qu'on n'arrive pas à les. Il y a des oranges, on n'arrive pas à les éplucher. Donc on mange la pulpe, et en général, on retourne les peaux, les écorces. puis on les avait laissés sur place. Mais moi, je n'avais pas remis les écorces à l'endroit. Lui, ses deux écorces à côté étaient bien remises à l'endroit. Moi, je n'avais pas remis les écorces. Après avoir mangé la pulpe, je n'avais pas remis l'écorce à l'endroit. Vous imaginez le drame à 1h du matin. Cette image de ces deux demi-écorces d'orange pas remises à l'endroit, qui d'un seul coup, pour un gamin comme Jean-Marie, autiste, devient un drame épouvantable. Quand vous vivez ça, ben vous dites ça va, y a pas, il vaut mieux pas trop s'en raconter, parce qu'on sera sûrement, souvent, très loin de la réalité. Et des histoires comme ça, je peux vous en raconter.
Merci beaucoup Patricia pour cette belle histoire. Et ça, c'est vrai que des histoires comme celle-là, Jacqueline en connaît des tas. Il en a d'ailleurs écrit un livre, « La vie de Radeau », belle métaphore, sorti aux éditions « Les mots et le reste ».
Notre émission touche bientôt à sa fin. Et pour conclure, nous passons le micro à Isabelle.
Bonjour Isabelle.
Bonjour. Alors, on n'a pas envie de conclure. Mais partager. Alors, partager, plutôt que chercher dans Wikipédia, on a cherché une définition dans nos vies et dans notre vécu d'éducateur. On a entendu Monsieur Règle, d'Attac, qui veut y voir le socle d'un minimum de cohésion sociale. Les guerriers de l'arc-en-ciel, qui rêvent donc l'amitié et les couleurs. Et puis, Monsieur Jacqueline et Gisèle, sa compagne, nous ont ouvert leur maison et font vivre le message de Fernand Deligny. Fernand Deligny, éducateur, mais aussi auteur, qui conseillait aux éducateurs à propos des adolescents en difficulté. Ne les lâche pas avant qu'ils aient pris de l'atmosphère que tu as créée tout le bien qu'ils pouvaient prendre. Initier des adolescents à l'utilisation d'un média populaire, la radio, c'est leur reconnaître la possibilité de faire entendre leur voix. C'est leur dire aussi que ça nous intéresse. Non seulement ils apprennent à mettre en mots des sentiments et des idées de façon entendable, mais en plus, ils auront le bonheur de voir ces messages diffusés, c'est-à-dire partagés. Accompagner des adolescents qui ont commis des actes de délinquance et les ramener vers une vie sociale nécessite des outils, comme cet atelier radio. Mais il nous faut aussi du temps et supporter les échecs. Supporter des échecs sans laisser tomber. J'ai envie de finir avec cette citation de Fernand Deligny, dont le message nous a accompagnés tout au long de ce stage et qui conseillait « Économise tes colères pour tes moments de solitude et puis, soigneusement, transforme-les en énergie. »
Merci beaucoup Isabelle. Eh bien, avant de vous quitter, une spéciale dédicace à deux personnes qui nous ont aussi accompagnés cette semaine, à Evelyne et Franck, nos cuisiniers de la semaine, que vous pouvez retrouver tous les vendredis matins sur le marché de Ganges pour savourer leur délicieuse, que dire, leur succulente crêpe et galette de sarrasin au saperlipocrêpe.
Merci aussi à Vacances Évasion et à Guillaume pour l'endroit splendide où nous avons pu travailler en toute quiétude cette semaine. Un salut aussi à Fabien, à la technique.
Et surtout, nous n'oublions pas que le partage, c'est aussi toutes ces radios. Des radios comme ici, comme Escapade, qui permettent la diffusion des émissions des jeunes tout au long de l'année.
Et surtout, merci à vous, auditeurs fidèles, curieux d'esprit, qui continuez à prendre les chemins de travers, écoutez les radios locales, les radios associatives, les témoignages d'inconnus.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel.